La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Au début de la saison radiophonique qui s'achève, une jeune sociologue mais aussi romancière, Kaoutar Archi, était l'invitée de la suite dans les idées pour parler de son essai sur la transformation des mécanismes de légitimation littéraire des écrivains algériens. Depuis les pionniers subversifs, Yassine, Djebbar, Boudjedra, jusqu'aux récents conformistes académiques, Sansal, Daoud. C'est cette compréhension des mécanismes largement ethnocentrés de reconnaissance des écrivains issus de l'ex-empire, comme on dit outre-Manche, que nous allons poursuivre quelques mois plus tard à la suite dans les idées avec une autre jeune sociologue, Claire Ducournau, qui publie ces jours-ci un ouvrage important, La fabrique des classiques africains. Elle est donc l'invitée de la suite dans les idées. Claire Ducournau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence dans le département des lettres modernes à l'université Paul Valéry à Montpellier. Je disais, vous êtes sociologue, en fait vous êtes littéraire et sociologue, vous avez cette double compétence que vous avez mise à profit pour travailler sur les classiques africains. Alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Cette expression, classique africain, elle vient d'une correspondance d'une lettre envoyée par celui qui est alors directeur éditorial des éditions du Seuil à la fin des années 70, qui sera ensuite le premier directeur que j'ai connu de France Culture, Jean-Marie Borzex, et qui écrit à un jeune écrivain, alors jeune écrivain africain, pour lui dire que il serait un classique africain. Alors, comment prendre cette expression dans cette lettre et pourquoi avez-vous choisi d'en faire, au fond, l'objet de votre travail, Claire Ducournau ?
Oui, alors effectivement, cette expression de classique africain, elle apparaît textuellement hein, dans cet échange de correspondance entre Jean-Marie Borzex et Tiernomone Nembo au début des années 80, pour désigner dans la bouche de Jean-Marie Borzex à ce moment-là la possibilité d'être mis en Afrique et en l'occurrence dans les pays d'Afrique de l'Ouest au programme universitaire pour le premier ouvrage de Tiernomone Nembo, les crapauds brousses. Et ça désigne par là un horizon possible, hein, à la fois symbolique hein, pour une œuvre de pensée, une œuvre de l'esprit qui se transforme en livre, et puis un horizon aussi économique, matériel, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un débouché pour un éditeur qui publie des ouvrages dans ces nations africaines, sachant que la notion de classique, hein, qui désigne un chef-d'œuvre, donc une œuvre renommée, désigne aussi des œuvres qui sont mises au programme dans les classes, à l'école, et que, eh bien, il y a un petit peu ces deux aspects. Et cette notion de classique m'intéressait parce qu'elle apparaît donc dans cette correspondance, mais elle apparaît aussi dans des collections éditoriales qui sont de plus en plus nombreuses ces dernières décennies à propos des écrivains africains. Et plusieurs collections hein, donc portent le nom de classique africain. Et elle apparaît aussi dans la bouche hein, des nombreuses personnes que j'ai rencontrées en faisant cette enquête, donc des éditeurs, des universitaires, des écrivains, avec une signification mouvante, hein, changeante. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'était en fait une notion que j'ai prise de manière dynamique hein, pour montrer ces différents usages au fil du temps hein, et comment il y a plusieurs manières en fait de devenir un classique africain en fonction aussi de la géographie, d'un espace de référence géographique.
Alors oui, parce que les deux mots comptent. Classique, bien sûr, mais aussi africain. On serait tenté de se demander, mais pourquoi préciser africain ? Un classique est un classique s'agissant de littérature, d'autant que cette littérature est écrite en français. On parle là de classique africain francophone. Donc, pourquoi la distinguer ? Et donc ça, c'est un débat qui va avoir cours, qui a cours depuis des décennies. Est-ce que, par exemple, il faut consacrer des collections particulières chez des éditeurs ? Et je pense à celle que Samy Tchak a dirigée chez Gallimard, Continent Noir, pour publier ces auteurs africains contemporains, ou est-ce que il convient de les publier dans les collections tradition générale de littérature qui voit des auteurs venir de différents endroits du monde pour peu qu'ils écrivent en français, en fait. Donc, au fond, l'enquête que vous avez menée permet de comprendre ce qui s'est passé depuis ce moment en particulier, fin des années 70, début des années 80, jusqu'à aujourd'hui. Et il s'est passé des choses importantes, et peut-être on va y revenir dans le cadre de cette émission. Les choses sont-elles en train, à certains égards, de s'accélérer, puisqu'on voit des initiatives, comme ce qui s'est passé à Dakar l'année dernière, qui fait l'objet d'une publication sous la direction d'Achille Mbembe et Felwyn Sarr. Ce week-end à Paris, l'Université Columbia et la BNF organisent un week-end de rencontres avec des écrivains africains et caribéens. Il me semble qu'il y a là une forme de d'accélération. Mais il y a des moments importants. On était là au début des années 80. 20 ans plus tard, en 2007, même que dis-je, 30 ans plus tard, en 2007, il va y avoir un texte auquel vous consacrez une sorte de prologue de votre livre, qui est un manifeste pour une littérature monde, qui va faire l'objet d'un débat assez important. C'est un texte qui est signé par celui qui est l'entrepreneur du festival de Saint-Malo, Michel Lebrize, donc défendant une littérature de voyage en particulier. Il s'est adjoint un écrivain de l'ouest de la France aussi, de la Basse-Loire, Jean Rouault, mais il a aussi à ses côtés des écrivains africains, pour revendiquer au fond l'idée d'une peut-être une version française de ce que les anglo-saxons ont commencé d'appeler une world fiction. Comment se pose la question et pourquoi avoir choisi de faire de ce moment-là un moment en quelque sorte inaugural de ce travail, Claire Ducournau?
Alors, effectivement, tout cela, en fait, repose sur une distinction très importante qui est celle entre, enfin, une littérature universelle et une littérature particulière, enfin, une littérature qu'on pourrait donc spécifier dans une case, dans une catégorie spécifique, que ce soit donc littérature africaine, qui est un label géographique continental, littérature francophone. Voilà, c'est tout le problème des catégories, en fait, hein, dans lesquelles ces écrivains issus d'Afrique se sentent bien souvent un petit peu parqués, ghettoisés. Alors, 2007 est le manifeste pour une littérature monde. J'ai décidé d'ouvrir mon livre, hein, sur cet épisode qui est aussi une controverse, parce que c'est un moment où surgissent, en fait, dans le champ littéraire français, des éléments qui sont la plupart du temps dans l'état ordinaire des choses, à l'état latent. Hein, mais là, on a eu énormément de débats et c'est une controverse aussi qui a été réussie. C'est-à-dire qu'elle a eu une réception critique extrêmement étendue. On en a beaucoup parlé, aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y a eu un bel écho donné à cette revendication, à cette politique.
Qui au départ un coup médiatique, parce que Michel Lebrize est à l'habitude de ce genre de choses. Ça visait à rendre son festival très très visible. Ce qui ne veut pas dire, quand je dis ça, je ne le dis pas pour dénigrer son initiative, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas derrière une question de fond, et que sans quoi d'ailleurs le débat n'aurait pas pris de cette manière, il n'aurait pas produit les effets positifs dont vous parliez à l'instant.
Bien sûr, ce qui est nouveau en fait avec le manifeste, vous avez bien raison de le souligner, si on historicise ces revendications, on se rend compte que la world fiction était revendiquée dès le début des années 90 par Michel Lebrize dans une précédente revue et dans le cadre des premières sessions, hein, du festival Étonnant Voyageur. On se rend compte que les écrivains africains, dès les années 80, se plaignent d'être publiés dans certaines collections, etc. On se rend compte qu'en fait, ces revendications qui surgissent, qui apparaissent dans l'espace public avec le manifeste, sont anciennes, en réalité, ne sont pas si neuves. Ce qui est nouveau, justement, c'est cette réception publique très forte, très étendue, cet écho qu'a obtenu le manifeste. Au fond, ce qui a rendu possible cela, c'est ce qui s'est passé dans la décennie précédente.
Oui, alors, ça, vous allez nous l'expliquer, mais moi, je faisais l'hypothèse aussi que ça avait à voir avec la manière dont le modèle anglo-saxon avait pu influencer Lebrize. Déjà pour l'organisation d'un festival, puisque la notion même de festival littéraire, c'est quelque chose qui va naître dans les années 80 en Grande-Bretagne, en particulier au Pays de Galles, plus précisément à Ionway, et moment où on voit la littérature écrite en anglais s'ouvrir de façon spectaculaire à des auteurs issus de l'ex-empire colonial. C'est la fameuse l'empire contre-attaque génération, donc à laquelle participe, je sais pas, Ben Okri par exemple, écrivain nigérian, ou évidemment Salman Rushdie ou Michael Ondaatje. Bon, et donc on voit ces auteurs auxquels les plus prestigieux prix littéraires, notamment le Booker Prize, font une place importante. On les voit célébrés dans la presse britannique. Et je pense que Le Bris qui à l'œil sur ce qui se passe là-bas, a aussi envie de participer pour la langue française de ce mouvement de world fiction, c'est-à-dire un mouvement de circulation peut-être accéléré des textes, de désenclavement en tous les cas de la littérature.
Bien sûr, pour être bien compris, le manifeste pour une littérature monde doit impérativement être situé dans son environnement international. Le modèle anglais et le modèle aussi derrière américain d'accès à la reconnaissance littéraire, il est revendiqué comme un modèle par le manifeste. Hein, et les trois écrivains dont vous avez cité les noms, Ben Okri, Salman Rushdie, Michael Ondaatje, sont des noms qui apparaissent dans le texte du manifeste. Ce qui manque aux écrivains de langue française par rapport à ces modèles-là, hein, c'est selon eux le traitement à part dont ils ont fait les frais, hein, puisque par exemple le Booker Prize a effectivement été octroyé à beaucoup plus d'écrivains issus des anciennes colonies britanniques que le prix Goncourt en France. Voilà, ça fait
et de ce point de vue-là, la littérature n'est pas forcément très, très différente d'autres domaines, et je pense en particulier au domaine universitaire. C'est pas un hasard si certains de ces écrivains, et je pense à Alain Mabankou et Abdourahane Waberi, qui sont les deux co-initiateurs, hein, sont enseignants aux États-Unis et pas dans l'université française. Il va falloir attendre longtemps pour que Mabankou revienne, invité par le Collège de France récemment. Et on pourrait faire la même réflexion à propos du théoricien du tout-monde qui est Édouard Glissant, à qui jamais l'université française n'a proposé un poste, alors qu'il a enseigné en Louisiane très longtemps et à New York. Donc il y a là une forme de spécificité du monde français, qu'il soit le petit monde de la République des lettres, et j'insiste sur République avec cette acception très française de République, et puis ou l'univers académique qui lui aussi est relativement à cette époque encore fermé en quelque sorte, Claire Ducournau.
Oui, en fait, derrière ce constat, hein, que vous faites, qui est extrêmement juste, il y a tout simplement une conception différente, une définition différente de la littérature qui, en France, doit être remise... la valeur littéraire doit être mise sans condition. Cela s'est fait historiquement pour la constitution du canon littéraire française, en excluant en fait certaines catégories sociales minoritaires, que ce soit les femmes, les écrivains à la peau noire, etc. On se rend compte sur le long terme, hein, qu'il y a eu énormément de polémiques et une grande lenteur pour intégrer ces groupes sociaux dans le canon littéraire français et dans les institutions littéraires françaises les plus centrales, alors qu'aux États-Unis, à partir des années 1970, il y a une autre conception de la valeur littéraire. Il y a une contestation croissante des canons et des corpus canoniques enseignés à l'université, notamment une conception qui vise à intégrer ces groupes-là, ces minorités, de manière impérative, justement, dans les corpus littéraires légitimes. Hein, vous avez cité Édouard Glissant, vous avez Stéphane Mabankou, on peut aussi ajouter Maryse Condé, qui a donné des cours, qui a été très influente pour certains éditeurs pionniers de littérature africaine, mais en tant que simple chargé de cours vacataire avant d'avoir une brillante carrière universitaire aux États-Unis, effectivement. Donc il y a un mouvement qui se fait depuis les États-Unis, le début des années 90, moment où Michel Le Bris met en place ce festival, est un moment important, où le prix Nobel de littérature est octroyé à Toni Morrison, par exemple, et où on a donc une visibilité sur la scène internationale pour ce type d'écrivain. Et finalement, le manifeste, hein, j'y reviens, donc, veut mettre la France à la page de ce point de vue-là. Et il y a aussi donc derrière ce manifeste une variable cachée qui est une variable éditoriale. Hein. Il s'agit aussi pour certains éditeurs, et en particulier Gallimard, de se positionner sur ce terrain-là, sur le marché éditorial mondiale, hein, en produisant un discours qui est justement adapté à ces catégories de world literature, etc., qui se sont développées dans les années précédentes.
Pour bien donner une idée de cette histoire et de finalement la manière dont les choses ont évolué, une petite dizaine d'années avant ce manifeste, hein, à la toute fin des années 90, j'avais fait écouter cette archive à Alain Mabankou il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il était l'invité de La Suite dans les idées en direct du Salon du Livre, au moment où il faisait ses cours au Collège de France. C'était l'archive de Robert Sabatier, jury du prix Goncourt, qui expliquait pourquoi son jury n'avait pas souhaité accorder ce prix cette année-là à Amadou Kourouma, disait-il, c'était en raison du rythme. Sous-entendu, on entendait trop les tam-tams dans sa langue française, et donc il ne pouvait pas prétendre concourir à la même compétition, en quelque sorte, que des écrivains français. On en était là à la fin des années 90, avec un jury important de ce prix qui le disait sur l'antenne de France Culture, dans l'émission que j'animais à l'époque, et j'avais fait réagir Alain Mabankou pour essayer de prendre la mesure, à presque 20 ans d'écart, des progrès, je pense, qu'on a fait, néanmoins, en termes d'ouverture, qui sont loin d'être achevés probablement. Mais comment vous voyez cette évolution, Claire Ducournau?
L'évolution, elle est réelle. Le tam-tam, la brousse, etc., c'est des mots qu'on aime renvoyer à ce type d'écrivain, ce qui est une manière de les renvoyer toujours encore à une altérité. Hein, de les constituer voilà, quand ce n'est pas
assignation racialisante, on peut le dire comme ça.
Oui, culturalisante ou racialisante, les deux se chevauchent bien souvent. Et effectivement, j'ai étudié dans le cadre de cette enquête la presse littéraire sur une quarantaine d'années parue en France et la place qu'elle réservait à ses auteurs. Et c'est un bon poste d'observation pour justement voir l'évolution de ce type de discours et voir comment à la fois leur place quantitative évolue et puis
la teneur des propos tenus. Est-ce que c'est les mêmes critiques qui écrivent toujours sur eux, des critiques spécialisées pour ce type d'écrivain africain? Ça existe encore, mais ça se renouvelle, il y a des effets de génération.
Les critiques se renouvellent et la manière de parler de ces auteurs se renouvelle également, fort heureusement, mais ils sont effectivement assignés à une altérité. Ils sont désignés encore dans les années 80, au moment de la cooptation de Senghor à l'Académie française, comme un groupe de noirs. C'est les expressions qu'on trouve. On compare Senghor à Yannick Noah dans un parallèle un petit peu déplacé, hein, au moment où il se trouve à l'Académie. Voilà, il y a toute une série de discours qui fait partie aussi d'un discours ordinaire finalement répandu, impensé, ce que vous dites, hein, des propos de Robert Sabatier. Ce sont des discours qui ne sont pas censés choquer le français moyen et qui
ne sont pas spécifiques à l'univers littéraire, en tout cas.
Et qui ne sont pas spécifiques à l'univers littéraire. Il s'agit aussi de procédés d'ethnicisation ordinaire que l'on trouve aussi pour toute une série d'autres activités sociales, mais qu'on va retrouver, c'est-à-dire que ces élites intellectuelles que sont ces auteurs, parce que ce sont aussi bien souvent des personnes extrêmement diplômées, qui sont des élites culturelles généralement, eh bien n'échappent pas à ce genre de procédé, à ce genre de catégorie, à ce genre de labels et de propos, qui...
Alors je voudrais revenir sur un autre type de polémique qui a ressurgi relativement régulièrement à propos de la littérature africaine contemporaine et qui a trait à la relation particulière qu'un écrivain entretient avec son éditeur. Oui. Il y a eu des polémiques qui touchent au fait que des éditeurs auraient considérablement réécrit les textes des écrivains africains, auraient, de ce point de vue, au fond, coproduit ou co-inventé une littérature dans un type de relation qui ne ressemble pas à la relation habituelle entre un éditeur et un écrivain.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreuses polémiques, de nombreuses affaires, de nombreux cas où on a pu dénoncer vous parlez de réécriture de l'éditeur. Alors chaque cas est à examiner rigoureusement parce qu'il y a aussi des idées répandues, des présupposés un peu diffus. Au fond, quand on fait ça recoupe aussi de certaines affaires de plagiat. Il y en a eu. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais voilà, Calix Béthune. Ayala, Yambo Logem, Kamarala. Il y a eu aussi le livre d'une universitaire américaine qui a eu très peu de publicité en France, mais qui pointait hein, des effets effectivement d'intervention sur le
quasi de coproduction
et de coproduction effectivement, mais en fait ces hypothèses sont examinées avec une grande vigilance de manière aussi nuancée. Alors bien sûr il y a un horizon d'attente spécifiquement africain qui va avoir sa part hein, dans ce genre de procédé. Mais il y a aussi, au fond, l'idée que finalement, un auteur issu d'Afrique ne serait pas capable hein, de produire une œuvre. Et ce qui, parfois, est complètement infirmé. Hein. Je pense à un cas dans les années 20, Bakary Diallo, Force Bonté, où donc il y a eu toute une polémique. Et en fait, hein, bon, le travail de Mélanie Bourlé montre que l'auteur, en l'occurrence, était l'auteur d'une vraie œuvre poétique en peul, dans sa langue d'origine, etc. Et il y a aussi l'idée, au fond, bah, qu'un écrivain africain n'est pas capable de pouvoir écrire tout seul, alors que ce qui est nouveau depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, hein, notamment avec des travaux qui se développent à l'ITEM, c'est l'accès aux manuscrits. Et donc on peut examiner ces idées répandues. Hein, moi, je l'ai fait dans le cas d'Amadou Kourouma, à propos de son deuxième roman, par exemple. Et donc on voit aussi comment on a des chantiers d'écriture qui évoluent, comment les auteurs, eh bien, ils écrivent, hein, et puis que la part de l'éditeur n'est pas du tout si importante que cela. En revanche, il y a une vraie, je dirais plutôt, négociation hein, que coproduction, dans le sens où il y a certains formats. Il y a certaines attentes, c'est le cas du choix d'un genre littéraire, d'un format, d'un thème, hein, en l'occurrence, est-ce que c'est pertinent ou pas d'aborder la colonisation dans les années 80? Kourouma veut écrire là-dessus, Chika Utamsi veut écrire là-dessus, il ne trouve pas d'éditeur, parce que dans les années 80, les auteurs se plaignent beaucoup de ne pas trouver d'éditeur pour ce qu'ils veulent écrire. Hein. De la même manière, ils écrivent, je le montre dans mon livre avec quelques données quantitatives. La poésie reste un genre extrêmement important, jusqu'au début des années 80, beaucoup plus important qu'il ne l'est en France.
C'est par là qu'Alain Mabankou a commencé, par exemple.
J'en
profite pour signaler que sa poésie est rééditée en Point Seuil, là, ces jours-ci.
Et Alain Mabankou, moi aussi, Sonny Laboutancy, hein, dont les inédits poétiques ont été publiés récemment, parce que Sonny Laboutancy le constatait lui-même, il ne parvenait pas à trouver un éditeur pour la poésie.
Cela dit, c'est peut-être pas propre aux auteurs africains non plus.
Hein,
il y a des romanciers français
qui ont le
même genre de difficulté.
Je suis bien d'accord. La différence, c'est que le roman n'est vraiment le genre absolument dominant que d'une manière beaucoup plus récente pour la littérature africaine que pour la littérature française, où ce basculement, comme l'ont montré les travaux de Christophe Charles, par exemple, se fait en France à la fin du XIXe siècle. Hein. Émile Zola a refusé plus d'une vingtaine de fois l'Académie française. Il y a un basculement qui se fait parce qu'il écrit du roman et qu'il faut que ce soit la poésie pour entrer à l'Académie. Il y a un basculement qui se fait à ce moment-là. Pour la littérature africaine, c'est très différent. Hein. Senghor, poète, entre à l'Académie française au début des années 80. Et statistiquement, tous les premiers titres d'auteurs africains, ils commencent hein, par la poésie, voilà, ce qui est pas du tout le cas, et ensuite basculement vers d'autres genres, par exemple. Donc on a ce type de décalage.
Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, Claire Ducournau, parmi toutes celles qu'on va laisser de côté, mais celle-là j'aimerais qu'on y vienne quand même, c'est la question du marché africain, parce que évidemment la situation particulière de ces auteurs, c'est qu'ils publient des livres souvent dans des maisons d'édition françaises, avec un public qui habite en France métropolitaine ou bon, mais il y a aussi un public soit africain, soit plus modestement dans le pays dans lequel ils vivent ou ils sont nés, où ils ont grandi. Parce que de ce point de vue-là aussi, vous faites des distinctions en fonction des parcours de ces écrivains qui, pour beaucoup d'entre eux, en fait, ne vivent plus là où ils sont nés. Claire Ducournau.
Tout à fait. Hein. Ce sont, pour une bonne part, ce sont des Africains de la diaspora et qui se sédentarisent de plus en plus hors d'Afrique à partir des années 80 en particulier, alors que dans les décennies précédentes, ces auteurs revenaient s'installer dans leur pays d'origine. Et effectivement, la diffusion, la distribution hein, de leurs œuvres n'est pas du tout la même en fonction, justement, là encore, hein, de leur lieu de publication, de leur lieu d'édition. Ils ont un large éventail de possibilités, hein, large éventail d'espaces des possibles, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu. Mais pour que ces possibles hein, deviennent, se réalisent, au niveau éditorial, bah, eh bien, il faut alors des choix de l'auteur, et puis il faut aussi resituer ces possibilités dans le moment de leur entrée en écriture. Hein. C'est-à-dire que si on commence à publier au début des années 80, on n'a pas du tout les mêmes possibilités que si on commence à le faire dans les années 2000. Hein, parce que entre les deux, eh bien, les possibilités de publication pour un auteur issu d'Afrique se sont développées. Et il y a différentes facettes, puisque dans cette production littéraire, on a une représentation assez importante, par exemple, du compte d'auteur ou de l'auto-édition, y compris chez des écrivains très reconnus. C'est un résultat intéressant de cette enquête. Mais parce que dans certains cas, les auteurs le disent, ça leur donne aussi une certaine liberté. Et étant donné qu'ils viennent de pays où il peut y avoir de la censure, du contrôle, eh bien, c'est aussi une manière, en fait. Donc, c'est une facette dont il faut, qu'il faut considérer, en fait. L'édition, donc, localement en Afrique, alors qu'il y a aussi ses avantages. Par exemple, on peut y publier davantage de poésie, justement, que chez les éditeurs français, mais aussi ses inconvénients, et qui touchent notamment ensuite, dans un second temps, la diffusion plus large de ses œuvres, leur possibilité de circuler, d'être traduite, même s'il y a aussi là-dessus certains contre-exemples. Mais donc on a certains auteurs qui vont être classiques uniquement dans leur pays, d'autres qui vont être classiques surtout en France. On a une variété, en fait, de possibilités en fonction du lieu d'édition.
Dans ce livre aussi, vous faites état d'une enquête ethnographique sur la version malienne du festival Les Voyageurs du Monde de Michel Lebris, puisque à plusieurs reprises, ce festival s'est installé à Bamako, je crois, ailleurs aussi, en Haïti notamment, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces tentatives d'organiser des événements autour de la littérature africaine contemporaine, enfin pas qu'africaine d'ailleurs, mais dans une capitale comme Bamako?
Ce festival, finalement, pour les Maliens, il a une position très ambivalente. Parce qu'à la fois, les écrivains maliens ont bien sûr apprécié le festival Étonnant Voyageur, qui a été, qui a dynamisé les échanges entre les acteurs de la filière du livre, entre les écrivains, qui a confronté les écrivains sédentaires, locaux, à des écrivains africains venus d'ailleurs, dont certains étaient installés en Europe. Hein, ce sont des moments importants. Et le festival Étonnant Voyageur s'était vraiment installé de ce point de vue-là. Mais en même temps, il a fait aussi l'objet de critiques de la part du public local, de la part de ses écrivains, en raison, qui regrettent certains décalages, qui regrettent la teneur des débats, qui ne touchent pas forcément leur définition à eux de l'Afrique, leur définition à eux de l'écrivain africain, puisque cela est l'enjeu de position, de conflit, et qu'on voit bien en fait se dérouler lors de ces festivals. Et
alors c'était peut-être un moment, je vous coupe parce qu'on arrive à la fin de cette émission. C'était peut-être un moment, et maintenant, le nouveau moment, c'est peut-être davantage ce qui s'est passé à Dakar, à l'initiative d'auteurs africains eux-mêmes, et non pas d'un entrepreneur culturel qui importe, en quelque sorte, sur le continent africain, un modèle de festival très, très européen. Donc, il faut souhaiter bonne chance à ces ateliers de Dakar qui vont continuer. Félouine Sarr et Achille Mbembe, notamment. Merci, Claire Ducournau. Je rappelle le titre de votre livre, La fabrique des classiques africains, écrivain d'Afrique subsaharienne francophone. Il paraît au CNRS édition. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, où vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Donnet à la technique. Philippe Mercher à la réalisation. Lise-Marie Barré. Et c'est tout de suite Étienne Klein que vous retrouvez pour la conversation scientifique sur l'antenne de France Culture.